Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Sarah.
Salut Thierry.
Merci de prendre du temps aujourd'hui donc pour parler d'un sujet que j'ai pas beaucoup l'habitude d'aborder sur le podcast, mais qui je pense est assez intéressant, qui est le sujet de la diversité dans le monde dans lequel du coup on évolue, qui est le monde de la tech et du produit. Mmh. Et donc ça va être la thématique de notre discussion aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose tout d'abord de te présenter.
Merci de m'inviter déjà. Donc Sarah Dufour, Sarah sans H. J'ai un background plutôt management, marketing. J'ai démarré dans la com et le marketing et petit à petit, je me suis spécialisée dans les produits numériques. Donc j'ai fait product manager et au bout d'un moment, je me suis de plus en plus intéressée aux pratiques, aux process, aux outils, aux interactions, etc., aux équipes. Donc je suis devenue coach agile, coach produit. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui en tant que freelance. Je fais aussi du management de transition selon les missions. Et j'ai aussi cofondé La Place des Grenouilles, une association antisexiste qui se veut un espace safe et intersectionnel.
Ok, hyper intéressant. Donc, je te propose déjà, ça fait à peu près combien d'années que tu évolues dans ce milieu du coup de la tech
Dans la tech pure, ça doit faire... on est en 2024 déjà. Ça doit faire 8 ans, un truc comme okay. ça.
Ouais, donc déjà, tu as pu voir pas mal de choses aussi. Donc, la Place des Grenouilles,
c'est ça.
Ça
ouais.
Donc, tu peux nous en dire un peu plus quelles sont les missions, comment vous fonctionnez, et puis ce que tu vois aussi... Comme retour du coup avec les personnes qui participent.
Donc ça a été fondé fin 2021, mais on est plus actives, donc Florence Chabanois et moi, avec qui donc on a créé cet asso, depuis plutôt 2022. On propose des événements soit ouverts à tous, soit en non-mixité ou en mixité choisie. Ça peut être des ateliers, ça peut être des cercles de parole, il y a un club de lecture, on a des conférences, des soirées jeux. Voilà, différentes choses. Le but, c'est de réfléchir aux stéréotypes, aux constructions, aux biais qui sont genrés, d'essayer de débunker tout ça ensemble. Donc, on n'est pas une association qui va, par exemple, venir en aide à des victimes de violences. On est plutôt vraiment sur le long cours, sur la réflexion, la déconstruction et la reconstruction sans injonction de genre.
Et donc, quel est, si je devais prendre l'exemple le plus courant qu'on peut retrouver en particulier dans le milieu de la tech, sur lequel justement ces sujets de genre peuvent venir? Qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite, tu vois,
Alors, déjà, donc, la Place des Grenouilles, c'est une association vraiment qui est ouverte à tout le monde, donc ce n'est pas spécifiquement autour de la tech, mais justement, c'est intéressant d'en parler parce que c'est né de Florence Chabanois, qui était donc une duchesse depuis de nombreuses années, qui parlait parfois de ce qu'elle pouvait mettre en œuvre ou de choses, de discussions qui avaient lieu entre duchesses.
Si tu peux préciser.
Oui, pardon, duchesse, c'est justement une association qui vise à promouvoir les femmes dans la tech. Pour faire court. Et donc, elle parlait de ce qui était fait dans le cadre de cette association avec d'autres, avec des proches qui ne sont pas dans la tech. Et les gens disaient « Ah, mais c'est trop bien, j'aimerais bien pouvoir venir, est-ce que c'est possible ?» Et donc, elle a voulu élargir ce qui pouvait se faire à tout le monde, à un public beaucoup plus large. Donc déjà... peu importe le genre, c'est ouvert à tout le monde. Peu importe l'âge aussi, on fait des choses avec des jeunes parfois. Essayer de viser aussi un milieu socio-économique peut-être moins aisé, moins favorisé. Et puis aussi, voilà, toucher des personnes qui peuvent être dans le cinéma, dans l'édition, dans l'éducation, voilà, toucher d'autres choses. Donc, ceci étant dit, pour répondre à ta question, je pense que ce qui est le plus insidieux, c'est les micro-agressions qui ne sont pas toujours forcément micro d'ailleurs, mais c'est les agressions banales du quotidien. Ça peut être un sexisme ordinaire, d'ambiance. Ça peut être une façon de gaslighter les femmes qui vont se plaindre ou dénoncer quelque chose qu'elles n'ont pas bien vécu. Donc la personne en face va vouloir minimiser. Ça va être ne pas prendre en compte l'expertise d'une personne, la dégrader ou dégrader ses compétences a priori. C'est plutôt ce genre de choses. C'est la difficulté pour les femmes et surtout développeuses, ou architectes, ou même peut-être QA, DevOps, etc., de faire sa place dans un milieu d'hommes.
Donc dans les métiers très techniques, de pouvoir... Surtout, ouais. Ce qu'on pourrait se dire... C'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire, ok, dans les métiers plus manuels, type le BTP ou autre, c'est un peu, ça fait cliché, mais on pourrait se dire qu'effectivement, il y a ce type de sexisme qui peut être présent et du coup, la difficulté pour des femmes de s'imposer dans ce genre d'univers.
Et encore, on pourrait se poser la question du pourquoi, mais oui.
Intéressant aussi, effectivement, du pourquoi là-dessus. Et dans les métiers plus, on va dire, col blanc, en tout cas, qui sont dans des métiers d'ingénierie ou autre, on pourrait... se dire qu'ils vont être plus ouverts, en fait, alors qu'en réalité, on a aussi ce type de soucis.
Oui, il y a un gatekeeping très, très fort. Et ce que je trouve quand même intéressant, c'est que dans d'autres pays, parce que là, on parle de l'Occident, dans d'autres régions du monde, l'informatique, c'est quelque chose de très féminin. Parce que ce n'est pas salissant, parce qu'on n'a pas besoin de force physique, parce qu'on peut éventuellement l'exercer à la maison et avoir un œil sur un bébé ou un parent malade. Donc, quand on veut défendre l'idée que les femmes, par essence, ne sont pas intéressées par la technique, pour moi, ça montre un biais très fort et un manque de curiosité et de connaissance de ce qui se passe ailleurs qu'en Europe ou aux États-Unis.
Et du coup, tu as des exemples de pays comme ça, justement,
oui.
Pour...
Alors déjà, en France, les étudiantes en ingénierie informatique sont très peu nombreuses. Au Maghreb, ça frôle la moitié. Et en Malaisie, par exemple, donc dans certains pays d'Asie, en Malaisie, s'il y a la parité, voire dans certains états justement de Malaisie, on a atteint les 65% de femmes dans les promos d'université ou d'école d'ingénierie informatique. Donc ça prouve bien que ce n'est pas une question de sexe, évidemment, de genre peut-être, puisqu'on est quand même socialisé, on est encouragé depuis toute petite à se diriger vers d'autres voies, le care, la créativité, certaines choses, et plutôt les garçons vers la technicité et les sciences. Donc c'est quelque chose qui est assez insidieux parce que ça arrive petit à petit, ça commence depuis très très jeune et ça se renforce au fil du temps, que ce soit par les manuels scolaires, par les commentaires des adultes, mais des autres enfants ou jeunes, par les représentations dans l'art et la culture. Donc bon, ça vient par tous les côtés, donc c'est pour ça que c'est difficile à contrer.
Et là-dessus, du coup, pour refermer un peu sur, en tout cas, on va dire, un endroit où plus actionnable pour les personnes dans le produit, ceux qui écoutent en tout cas, et les leaders tech ce podcast, quelles sont les choses, tu vois, parce que c'est vrai que ça peut être assez compliqué de se dire à quelle position je me place, c'est-à-dire que j'ai des amis qui vont me dire, moi je fais pas, par exemple, de discrimination positive, je considère que si la personne, qu'elle soit une femme ou un homme, si la personne correspond à ce dont j'attends, peu importe. Après, t'en as d'autres qui vont te dire, oui, mais si tu fais pas ça, le problème, c'est que du coup, vu qu'il y a déjà un écart de départ, ça va être compliqué de réussir à avoir plus de candidats qui vont pouvoir postuler. Et donc, d'un point de vue probabiliste, tu vas de fait avoir moins de chances de réussite si t'es une femme qu'un homme. Donc là, je donne un premier exemple, tu vois, mais là-dessus, sur c'est quoi un peu les conseils, les tips que tu pourrais donner, et de la même manière, après, de réussir à trouver cette bonne place, de pas faire éviter ce type de remarques, justement, parfois qui peuvent être, on s'en rend pas compte, mais des remarques sur la compétence technique ou ce genre de choses sous la forme de blagues qui en fait font que renforcer cette discrimination. Et pouvoir aussi s'exprimer de manière sans avoir à se dire est-ce que je peux le dire ou pas, parce que du coup après ça casse aussi un peu le naturel des conversations et ça bride. Donc c'est vrai que c'est pas moi je suis un homme, donc dans la tech, du coup c'est pas évident de savoir où se positionner.
Bon, déjà je pense que si le point de départ c'est une véritable ouverture et intention de déjà s'intéresser et de reconnaître qu'on est soi-même forcément pétri de biais sexistes, puisque même nous les femmes nous le sommes, déjà première chose c'est de l'admettre, et de dire que je ne suis pas une mauvaise personne parce que j'ai des biais sexistes. On veut taper sur les doigts de personne. C'est le point de départ pour moi. C'est ce qui permet une humilité et de se dire, OK, j'ai des choses à travailler sur moi, sur nous, en tant qu'individu et que collectif. Donc pour moi, première chose, l'admettre. Ensuite, se former par tous les biais possibles et inimaginables. Alors, en tant qu'individu, il y a des formations qui existent. À vous de voir si vous avez envie d'y aller, de faire cet effort-là, entre guillemets. Mais ça peut être aussi écouter des podcasts, il y en a plein. Ça peut être lire des articles, lire des essais, lire des rapports, par exemple, du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. C'est disponible sur Internet, c'est gratuit. Pour se rendre compte de l'ampleur en fait, du phénomène et de tous les aspects qui peuvent être impactés par le sexisme, et notamment le sexisme ordinaire. Je pense aussi que ça va beaucoup toucher à la sécurité psychologique, qui est de toute façon un indispensable pour bien faire des produits de façon collaborative, qu'on parle de discrimination ou non. Pour moi, c'est important de poser un espace, et c'est difficile. Hein. Je dis pas que c'est facile. Moi, j'essaye aussi sur d'autres axes que je ne vis pas moi-même, mais d'essayer de poser un cadre de feedback qui soit en fait qui permette aux personnes qui se sont senties à un moment froissées, gênées, blessées, de faire un retour. Donc s'il y a une culture du feedback et une sécurité psychologique, je pense qu'on peut faire des bourdes et apprendre de ses erreurs puisque la personne pourra nous faire un retour. Tu parlais des quotas, j'étais contre il y a quelques années, mais en fait je me rends compte que c'est un passage indispensable parce que en fait on peut pas demander aux gens qui sont 5 fois plus biaisés et qui ne vivent pas un certain nombre de choses de changer, de révolutionner les choses. Donc si pour l'instant on a aux manettes que des hommes blancs cis hétéros d'un certain âge middle aged 35-45 qui sont les seuls à décider, à trouver, à faire de l'idéation sur comment changer les choses, ça va être très compliqué. On peut pas décider pour les autres sans les autres. Donc pour moi, les quotas, c'est un passage obligé. Je ne sais pas si pendant 10 ans, 15 ans ou que 5 ans, je ne sais pas. Mais c'est ce qui nous permet d'intégrer, déjà de former, de mettre à niveau, entre guillemets, une plus grosse masse de personnes de diverses origines et d'arriver à ce que les choses, ensuite, au bout d'un moment, se fassent naturellement et que la multiculturalité et la diversité soit présent et présente de façon naturelle. Après, on pourra enlever les quotas.
Ouais, donc effectivement, ajuster, enfin, augmenter les curseurs maintenant et après les redescendre une fois qu'on a atteint.
Bah après, ce sera plus un sujet en fait.
Ouais. Et du coup, sur l'aspect quotidien, on va dire dans le monde notamment de la tech, il y a pas mal de culture un peu underground, enfin pas mal de références culturelles aussi qui font un peu cet écosystème et qui pour le coup, même côté dev, qui sont très pas spécialement sexistes, mais orientées, enfin masculines,
connotées,
oui. Voilà. Et donc ça pour le coup a changé. C'est aussi quelque chose qui va prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et est-ce que tu aurais, tu vois, des petits tips, des petits trucs pratiques pour, par exemple, des leaders tech, plus développeurs qui nous écoutent, pour se dire, bah, peut-être que je vais arrêter de faire ce type de remarques, ce type de réflexions et...
Ouais, y a aussi un point très important que j'ai oublié de mentionner dans ta question précédente. Changer aussi, revoir les critères de sélection, que ce soit d'admission dans les écoles ou de recrutement. On est aussi très biaisé. On va peut-être se dire qu'entre deux CV relativement similaires, je vais peut-être choisir celui où il y a comme hobby jeux vidéo. C'est pas parce que tu adores les jeux vidéo et que tu passes toutes tes soirées à jouer que tu vas mieux coder. Donc ce genre de réflexes rapides, de critères qu'on peut avoir en tête, d'association d'idées, ça c'est essayer de les casser. Parce que tu peux, je sais pas, tricoter et être une très bonne développeuse. Tu peux avoir des passions ou des side projects qui sont pas ceux qu'on va naturellement associer à la tech. Mais qui peuvent être hyper riches. Et inversement, il y a certains side projects ou hobbies qu'on va associer à la tech et qui, en fait, n'apportent pas tant que ça dans le métier. J'ai perdu le fil de ta question.
Non, non, mais ça, c'est un très bon point d'ailleurs, et c'est vrai que c'est un très bon point que tu fais. Les représentations mentales qu'on a de qu'est-ce que c'est qu'un développeur ou une développeuse, du coup, geek, qui va avoir des tatouages de partout, qui va jouer aux jeux vidéo. Alors qu'en réalité, effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas de lien entre ça et ta compétence à faire le métier. Mais c'est des éléments de culture en fait, et du coup, il y a réussir à ne pas avoir ce réflexe-là quand on regarde dans le cas d'un recruteur par exemple, se dire c'est pas parce que j'ai vu jeu vidéo que entre celui qui avait jeu vidéo et celui qui ne l'avait pas, je vais choisir la personne qui avait le jeu vidéo. Ma question, c'était aussi du coup pour donner des conseils plutôt vraiment pratico-pratiques aux équipes tech qui du coup baignent dans ces cultures-là aussi et dans lesquelles il y a des références, il y a des façons de communiquer pour petit à petit réussir à être moins, moins sexiste sans vouloir l'être, et surtout à pouvoir du coup inclure les femmes de manière beaucoup plus importante dans cet univers tech.
Ouais. Alors déjà, premier conseil, je pense que ce sera bien mieux. Même si je lui piquerai quelques idées, mais si vous voulez plonger dans ce sujet, je vous invite à regarder la conférence de Florence Chabanois qu'elle a donnée à Mixit ou MixIT, que vous pouvez retrouver sur Vimeo, je crois, ou sur le site de Mixit, qui s'appelle Comment recruter des femmes et les conserver, ou quelque chose comme ça, où justement elle explique son cheminement en tant que lead tech qui était amenée à recruter et qui souhaitait diversifier ses équipes. Elle a galéré. Donc, elle-même étant femme, elle a galéré. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de facile. Si on veut y aller, il faut y aller à fond, il faut s'impliquer. Mais il y a, par exemple, dans la rédaction, justement, j'ai l'impression que tu le sous-entendais tout à l'heure, dans la rédaction des offres d'emploi, par exemple, si tu mets « Ouais, on cherche des ninjas du code et si tu veux, je sais pas, faire un baby-foot après le taf, on a ce qu'il faut, et puis on aime faire des after-work avec de la bière, ou je sais pas quoi. » Enfin, là, je l'ai fait de façon très caricaturale, je suis désolée. Mais parfois, on a l'impression de tomber quand même dans la caricature. Tout ça, oui, c'est connoté. Et bon, pour moi, il n'y a pas que l'aspect du genre là, qui entre en compte. Ninja du code, je ne sais pas, c'est pour faire fun ou quoi, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on veut des loups solitaires qui sont combatifs et qui vont être dans la joute. Je sais pas, moi je sais pas ce que c'est un ninja, c'est ce que j'associe dans ma tête. Est-ce qu'on veut des gens qui aiment consommer peut-être un peu beaucoup d'alcool? Qu'est-ce qu'on attend en fait, et qu'est-ce qu'on vend aux gens? Je suis pas sûre que ça repousse que les femmes. Ce genre de truc. Bon, si t'aimes pas le baby-foot et t'as pas un esprit compétitif et tu es un homme et tu bois pas d'alcool, en fait, ça va pas te parler plus que ça. Donc, Florence disait, entre autres, si je me souviens bien, qu'il faut juste être factuel sur ce qui est attendu. Pas essayer de faire des trucs trop originaux, quoi. Juste, c'est une fiche de poste. Bien préciser qu'on est ouvert et ouverte à tout type de profil, parce qu'on parle là juste de l'axe genre, et de façon très binaire d'ailleurs, mais au-delà des femmes et hommes, il y a d'autres... c'est un spectre. Mais il y a aussi l'aspect formation. On va souvent avoir tendance à être rassuré en tant que recruteur, à recruter quelqu'un qui a fait la même école que soi. Or, il y a des gens qui ont fait la fac et qui codent très bien. Il y a des gens qui sont issus de reconversion et qui ont une niaque pas possible et qui, oui, il faudra peut-être accompagner au début, mais qui pourront vous le rendre fois 40. Donc tout ça, c'est voilà, sortir de nos schémas, de nos cases très prédéterminées et s'ouvrir à d'autres profils, des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent de parcours différents, atypiques, qui auront des choses à apporter. Je parle là beaucoup de code. C'est pas mon domaine de prédilection, puisque je ne suis pas ingénieur, je ne développe pas. Mais je pense aussi à des personnes que j'ai côtoyées, que ce soit product owner, product manager, Scrum Master, qui étaient issus de différentes formations, une sage-femme, des journalistes. Et en fait, ce que ces personnes ont appris dans leur précédent métier ou dans leurs études, c'est quand même des choses qui pourront servir, pas toutes, mais c'est des choses, c'est un plus, c'est des choses qui pourront servir pour le produit, pour l'équipe, dans les interactions, etc. Donc pour moi, c'est ça qui est à valoriser, c'est de se dire bienvenue au profil atypique, quoi.
Yes, là-dessus, je te rejoins totalement sur le bienvenue au profil atypique. Tu m'as fait une parfaite transition aussi pour aller plutôt vers les métiers que tu pratiques aujourd'hui, plutôt de l'accompagnement d'équipe, d'équipe agile et autour du produit. Là-dessus, je vais mettre les pieds dans le plat sur le type, notamment sur les rôles de facilitateur. Moi, je trouve sur les expériences que j'ai eues jusqu'à présent, c'est pas que, mais quand même souvent, lorsque c'était des accompagnatrices, ça se passait mieux sur l'intégration au sein des équipes, le fait de pouvoir réussir à faciliter à la résolution des conflits, ce genre de choses. Et du coup, association peut-être aussi. Pas correct, mais je suis curieux d'avoir aussi ton regard là-dessus, c'est de se dire si j'ai des problèmes où il y a pas mal de conflits à résoudre et que je veux les résoudre de manière plutôt peaceful, ça va être plutôt mieux d'aller prendre une facilitatrice qu'un facilitateur. Je suis curieux d'avoir ta réaction sur ça.
Ouais. En fait, la réponse pour moi, elle n'est pas simple. Il y a des facilitatrices qui ont une posture et des comportements et des réflexes qui, pour moi, ne sont pas inclusifs et apaisants. Et inversement, il y a des hommes qui font ça très bien. Mais c'est vrai qu'on est généralement socialisé en tant que femme à être dans la relation, le soin, le care, l'écoute, etc. Les petits garçons, ils sont socialisés plutôt à être conquérants, aventuriers, à dominer l'autre, à gagner, etc. Donc oui, par cette socialisation, cette construction sociale qui dure depuis l'enfance, il y a des facilités, peut-être, encore une fois, de façon très grossière, dans un genre ou un autre.
Et du coup, par rapport à ça, du coup, ça me fait penser à un autre point. Donc, effectivement, tout ça, il y a l'aspect, comme tu dis, la socialisation et du coup la construction depuis la petite enfance. Mais est-ce que ça fait pas aussi partie, au final, de ce qu'on est en tant que société, et que à trop déconstruire, on prend pas le risque justement d'être complètement plat, c'est-à-dire il y a plus de différence au final après sur ce que ça veut dire que de différence dans le sens façon d'être entre un homme et une femme, et qu'au final on devienne un peu tous assez similaires.
Moi je le vois plutôt comme une grande liberté, un champ des possibles à étendre, et de se dire que peu importe quel prénom on nous a donné à la naissance, peu importe notre morphologie, ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin d'un pénis pour coder ou d'une paire de seins pour être facilitatrice. Tu vois ce que je veux dire? Désolée, je suis un peu crue, mais...
Ouais, non, mais...
Et en fait, je me dis, mais plutôt que d'être plat, on serait peut-être tous et toutes bien plus riches. J'aimerais qu'on se dise qu'on peut être contre les déterminismes et que, encore une fois, le genre, c'est quelque chose de fluide qui peut aussi évoluer dans le temps. Et donc, je trouve que de s'enfermer dans des carcans, c'est quand même dommageable, et que les petits garçons sont tout à fait à même d'apprendre l'empathie et la communication comme les filles à taper dans un ballon de foot, quoi. Je pense que ça peut que nous apporter de la richesse et plus d'harmonie, en fait, si on a les mêmes, on est plus nombreuses à partager des codes et à s'ouvrir à l'autre. Je vois pas ce que ça pourrait nous enlever.
Intéressant. J'aimerais bien revenir du coup sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes, notamment en Malaisie. Donc t'as pris l'exemple de la Malaisie, t'as pris l'exemple aussi du Maghreb. Qui sont effectivement de formation ingé, du coup qui deviennent ensuite développeurs, développeuses. Donc c'est quoi, t'en as parlé un petit peu, mais pour toi les raisons qui font ça, donc tu disais ça leur permet aussi d'avoir plus de temps à côté, enfin c'est quoi le...
Alors je suis pas spécialiste, apprendre avec de la distance et des pincettes. En fait, les sciences en soi, c'est... j'allais dire les maths, mais même, enfin, je sais pas quel est le rapport entre le développement logiciel et les maths. Et c'est ce raisonnement logique. D'ailleurs, ça me rappelle une ancienne collègue qui est développeuse, qui a fait des langues au départ, je crois qu'elle était linguiste. Enfin, bon, les liens peuvent être variés. J'ai oublié sa question. Pourquoi? Oui. En fait, cette ce fait d'écarter les femmes de sciences dures ou de la technique, ça a été un choix, en fait, qui a été fait. Il n'y a pas de raison, je veux dire, calculer, par exemple, je ne sais pas, si on parle de calculer ou de gérer de la donnée ou des stats, etc., enfin, gérer des nombres, des stats, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on retrouve dans d'autres métiers. Je ne sais pas, bon, peut-être moins la finance, mais la compta, même si c'est peut-être des opérations quand même plus simples. Mais on a fait le choix d'écarter les filles. Pendant longtemps, les femmes ne pouvaient pas travailler ou pratiquement pas, ne pouvaient pas avoir de compte en banque, tout ça, tout ça. Donc, on investissait moins dans l'éducation et le développement des filles. Mais après, si on lit Isabelle Collet, qui a écrit les oubliés du numérique, et puis plein d'autres sources aussi, je pense à Mathilde Saliou et à d'autres personnes, si on cherche dans l'histoire, on peut retrouver plein de femmes scientifiques qui ont apporté énormément de choses dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Je sais pas, le GPS, les essuie-glaces, plein d'objets divers et variés. Les femmes sont aussi capables de construire. Enfin, et je dis encore une fois, là, c'est sur l'aspect genre, mais tout type de personne peut construire. Et oui, les premières développeuses étaient des femmes. Donc,
Il y avait le film Invisible Woman, si je ne dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire.
Les femmes de l'ombre,
ouais,
c'est ça,
ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Qui ont permis d'envoyer une fusée. Je ne sais plus si c'était sur la mission Apollo, je ne sais plus laquelle c'était. Mais bon, il y a qui retrace justement le parcours de ces.
Est-ce que c'était ces femmes afro-américaines qui travaillaient à la NASA, oui, qui étaient séparées. Enfin, il y avait une ségrégation terrible.
Et, la ségrégation.
Donc, c'est bien la preuve que c'est possible. Enfin, oui. C'est apparemment c'est Margaret Hamilton qui a eu le titre de première ingénieure logicielle quand c'était pas hype le software. Pas, ouais.
Non, c'est intéressant. Du coup, t'as ouvert aussi sur le sujet. C'est vrai que diversité au sens plus large, dans le milieu justement de la tech aussi, c'est quelque chose où on peut avoir une réplication notamment dans le milieu start-up, on va dire type d'école, ensuite type de première entreprise, et puis ensuite monter sa start-up, lever des fonds, la revendre. Là-dessus, sur ces sujets-là, pareil, donc de diversité plus au sens large, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, comme peut-être pattern ou comme chose que tu peux, ou même en discutant avec tes pairs, des choses qu'il faudrait essayer de changer justement pour permettre d'ouvrir plus sur faire entrer plus de monde, de personnes qui viennent de milieux complètement différents. Donc, tu parlais de la façon de rédiger des offres d'emploi, tu parlais du coup des écoles.
En fait, il y a beaucoup de choses aussi dans cet univers-là qui se font de façon informelle. C'est parce que t'as un pote qui t'a présenté un autre pote ou t'as rencontré dans un after work ou un meet-up ou voilà, et souvent qui se ressemble s'assemble. C'est toujours plus facile d'interagir avec des personnes qui ont le même parcours que nous, donc pour moi aussi, hein, je vais pas jeter la pierre aux hommes, mais essayer de revoir nos critères, revoir sur quoi on base notre confiance. Souvent, c'est des choses pas forcément très rationnelles. C'est aussi aller chercher des gens, encore une fois, dans d'autres milieux, des gens qui sont dans des bootcamps ou des parcours de formation en reconversion. C'est aller chercher des jeunes filles et des jeunes garçons dans des quartiers qui sont peut-être moins favorisés. Aller faire de la sensibilisation dans des lycées différents. En fait, j'ai pas une réponse facile et rapide à donner, malheureusement, parce que c'est un sujet hyper complexe. Mais oui, essayer de se dire, ok, quand on regarde, quand on fait une photo ou un slide deck qui explique le parcours des fondateurs et fondatrices, en fait, souvent, c'est un peu trop blanc. Et souvent, c'est un peu trop masculin. Donc, alors que ça a été prouvé, je crois que c'est une étude BCG qui prouvait qu'une entreprise performait mieux quand l'équipe dirigeante était mixte que lorsqu'elle était 100% masculine. Or, c'est souvent ces équipes-là, ou ces duos-là, qui sont financés à des, voilà, qui font des levées de fonds quand même plutôt intéressantes. Les femmes ont plus de mal à lever des fonds, elles ont moins d'argent. Et évidemment, si on parle de femmes qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations, qui sont racisées, qui sont peut-être handy ou autres, c'était pour donner quelques exemples, c'est encore plus difficile. Donc, Je pense aussi que si on est un dirigeant ou une dirigeante plutôt à l'aise, qui est arrivé à un moment de sa carrière avec pas mal de pouvoir et d'influence, c'est aussi peut-être soutenir des initiatives de personnes qui sont parties avec moins de privilèges et te dire que ça peut de toute façon qu'apporter en termes business aussi, parce qu'il y a forcément un marché pour adresser des gens qu'on connaît moins, puisque qui se ressemblent, s'assemblent. Donc on ne peut pas connaître l'exhaustivité de la population qui peut être des potentiels utilisateurs pour un service de demain.
Ouais, là-dessus, du coup, il y a aussi toujours cette logique, comme tu disais, sur les quotas, de, au départ, peut-être mettre l'accent plus fort pour aller rechercher plus ce type de profil atypique, puisqu'en fait, il y a un rééquilibrage à faire et que même naturellement, en tant qu'humain, on va avoir tendance à aller vers des personnes qui nous ressemblent. Et du coup, pour contrer ce biais, il faut qu'on se force aussi, justement, à aller... Et donc là où on pourrait se dire, justement, on fait une discrimination positive ou ce genre de choses, en réalité, on ne fait que compenser à... Tout dépend du contexte, mais dans ce qu'on est en train d'expliquer, compenser le biais que l'on va avoir naturel à aller vers des personnes qui nous ressemblent.
C'est exactement ça. Et je peux vous dire, ça fait du bien. C'est pas facile. C'est parce que on fait plus attention peut-être à ce qu'on dit ou on observe, on est plus dans l'observation, dans l'écoute, etc. Mais c'est hyper enrichissant. C'est hyper agréable. Moi, c'est vrai que c'est plus facile parfois d'être avec des clones. Mais au bout d'un moment, en fait, je me fais chier. Je me dis, mais bon, ok, j'ai un miroir de moi. C'est plus intéressant de se nourrir d'autres vécus, d'autres prismes.
Yes, hyper, hyper aligné là-dessus. Et c'est vrai que c'est ça qui fait de toute façon ensuite la richesse en général de ce que tu arrives à créer et pas juste faire des produits, des services qui se ressemblent les uns aux autres. Donc ça va permettre aussi d'innover plus facilement. Hyper, hyper intéressant. Enfin, c'est des sujets du coup qui forcent à réfléchir et je trouve ça intéressant de le partager sur un podcast produit tech, parce que ça permet aussi justement voilà, de mettre un peu en lumière, parce que je sais qu'il y a plein de podcasts hein, sur ces thématiques-là qui ont beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, mais qui vont avoir des auditrices et d'auditeurs qui sont en général des personnes qui sont déjà convaincues en fait. Ouais. Et du coup, pour pouvoir amener plus de gens à écouter ce genre de contenu, bah, il faut que des gens comme toi qui sont des qui veulent pousser ce genre de réflexion viennent sur des médias moins
focalisés là-dessus. Ouais. Là-dessus,
ouais. Du coup, est-ce que tu aurais aussi, pour ces personnes qui voudraient, qui en écoutant cette discussion, se disent bah, « je vais m'y intéresser un peu plus », tu vois, tu as dit il y a plein de podcasts, plein de livres, etc., mais en donner peut-être quelques-uns.
Oui, alors je pourrais déjà commencer, là, parce que c'est l'exemple le plus récent que j'ai en tête, je pourrais vous diriger vers un article que nous avons publié sur le blog de la Place des Grenouilles, qui explique en fait un certain nombre d'étapes pour justement arriver à être plus inclusif et inclusive dans sa structure. Donc là, vous avez un guide, et il n'est pas parfait, il a le mérite d'exister, et on voudrait l'enrichir. Le but, c'est d'enrichir avec plein d'autres sources, parce que bon, nous aussi, on a nos biais. Donc je le disais tout à l'heure hein, se former, je pense que le bouquin de Mathilde Saliou, Technoféminisme, peut être intéressant, Les oubliés du numérique aussi. Après je pense qu'aussi le blog des Duchesses, je sais que Florence Chabellon avait écrit un article qui s'appelle je crois que c'est quelque chose comme survivre, comment survivre en étant une femme dans la tech, pour justement voir l'envers du décor et se rendre compte en fait d'un certain nombre de choses qu'on peut dire ou faire sans s'en rendre compte. Il y a aussi un autre article sur notre blog de la Place des Grenouilles qui revient sur une intervention, une conférence de Nathalie Achard qui venait sur les privilèges et les violences ordinaires et les microagressions, etc. Pour s'en rendre compte de ses biais. Voilà, c'est déjà pas mal, je crois. Après, sinon, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai une bonne liste.
Hyper, hyper clair. Du coup, avant d'aller vers mes questions de fin d'échange, est-ce qu'il y a un point en particulier, un axe que tu aimerais aborder, partager ?
Alors, peut-être rappeler, alors, vous le connaissez peut-être par cœur, hein, mais quelques exemples, les soucis de reconnaissance faciale sur des peaux noires, par exemple. Donc là, on est pur dans le produit et les discriminations. Ou le marché de la santé des femmes qui est totalement sous-exploité. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Ou aussi le fait que apparemment l'Apple Watch n'a pas trop pris au niveau des femmes européennes, parce que justement le poignet, la taille du poignet des femmes en Europe est apparemment, c'est ce que j'ai entendu, plus fin que la moyenne des femmes aux États-Unis. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment, c'est pas juste par... par gentillesse ou que sais-je, c'est aussi à viser business. C'est important d'inclure plus de monde pour contrer plus de biais, pour éviter plus d'erreurs. En fait, c'est du dérisquage. L'inclusion, c'est du dérisquage.
Oui, parce que tu vas toucher un panel plus large au final, donc assez intéressant là-dessus. Ouais. Les problèmes de reconnaissance... facial, c'est vrai que ça va même au-delà aujourd'hui, tout ce qui est entraînement de différents algorithmes par des blancs caucasiens dans la Silicon Valley, c'est clair qu'on est en train de déployer des outils ultra puissants, mais qui malheureusement vont...
Sur des modèles de données totalement dépassés, biaisés, ouais. Et biaisés et discriminants, et encore une fois, pas que sur l'aspect genre. Y a plein de choses, on est vraiment dans une société validiste, qu'est-ce qu'on fait des personnes handicapées ? On est très dans une société aussi qui se base sur la neurotypie. Qu'est-ce qu'on fait des neurois ? Plein de choses. Les enfants aussi, est-ce qu'on les inclut vraiment dans nos réflexions ?
Beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas à contacter Sarah directement sur LinkedIn.
Je suis active.
Top. Donc, pour aller vers mes deux questions de fin, donc, la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle, en général, tu es en désaccord avec tes pairs ?
Je crois que là, le dernier sujet, c'est... on parle de rythme soutenu et soutenable en agilité, en produit, en tech, etc. Et je pense qu'étant plus jeune, j'étais plus sur l'aspect soutenu. Et là, je me rends compte de l'importance du soutenable. Donc, ça va ensemble, ce ne sera pas une surprise, mais je pense que le bien-être au quotidien est quand même assez précieux et qu'aujourd'hui, dans ce monde, alors je vais sortir une banalité, mais hyper VUCA, machin, avec autant de concurrence, d'instabilité, de gens qui refusent un certain nombre de normes, de choses descendantes, de hiérarchie, de trop de présentiel, de choses comme ça. Prendre soin, chouchouter ses collabs et qu'on soit manager ou juste, je parle de collègues au même niveau, je pense que c'est hyper important et que ça amène. Alors, c'est des bénéfices au long terme, au plus long terme, même si ça ne veut pas dire que les personnes vont rester 15 ans dans la même boîte si elles sont bien traitées, il ne faut pas non plus se leurrer. Je pense que cet aspect-là, il est hyper important et je ne sais pas s'il est toujours suffisamment pris en compte dans les environnements dans lesquels on évolue. J'ai vu de tout. Là où je suis actuellement, c'est quelque chose qui est pris en considération. Mais oui, j'ai vu d'autres clients pour qui ce n'est pas un sujet du tout et qui s'étonnent de ne pas arriver à recruter après. Enfin...
C'est assez intéressant, effectivement. Ouais. Pareil, j'ai pu voir... j'ai quand même plus tendance, moi, à voir des personnes qui vont rester pas hyper longtemps dans des entreprises, qui vont passer de l'une à l'autre, etc. Et en général, quand il y a une personne qui reste 10 ans dans la même boîte, start-up, qui est devenue scale-up, qui est devenue vraiment une boîte rentable, c'est vrai que moi-même, je me suis surpris à chaque fois. Et parce qu'effectivement, il y a cette culture quand même de vraiment juste work hard et puis ensuite, le reste, c'est pas trop un sujet. Mais comme tu le dis, alors après, c'est sur la durée, mais le fait de prendre aussi en considération la partie humaine les choses qui sont pas liées directement au business, mais qui sont en fait liées indirectement, parce qu'à partir du moment où les personnes sont bien, elles vont pouvoir bien faire leur taf, c'est un pari que tu fais sur l'avenir. Et c'est vrai que dans l'univers tech, la chose qui peut être compliquée, c'est qu'en fait, quand tu crées une startup ou un produit tech, tu sais pas en fait du tout où tu vas en général. Tu as une idée que tu veux essayer de tester. Et donc, c'est compliqué de se projeter, à se dire je vais encore être là dans 20 ans. Oui. Et donc, c'est plus le plus vite j'arrive à revendre et le reste advienne que pourra. Quoi. Oui. C'est là où il peut y avoir un conflit des fois, justement, à bien arbitrer pour pas cramer tout le monde et se retrouver solo sur sa super île, quoi. Donc c'est vrai que un point hyper intéressant, merci pour ce partage. Et donc pour ma dernière question, c'est quelles sont les choses qui te nourrissent intellectuellement, comment tu progresses
Alors là, en ce moment, je m'intéresse, j'ai un rejet de Safe depuis que j'en ai vaguement entendu parler, et je m'intéresse à Less. Donc voilà, si je suis sur une partie purement tech et orga, c'est ça qui m'intrigue pour l'instant. Et sinon, de façon plus générale, c'est tout ce qui est systémie et tout ce qui vise à critiquer, à décortiquer la norme, les normes sociales. Voilà, je pense que c'est ça qui me passionne. J'écouterai des podcasts là-dessus, je vais lire des essais là-dessus parce que ça me semble stimulant.
Top. Bah, merci pour ton partage, Sarah.
Merci Thierry pour l'invitation, c'est cool.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.